CO2 Mon Amour, avec le WWF. Ensemble, agissons pour laisser une planète vivante. Rendez-vous sur www.fr.
Bien, alors maintenant voilà, ce n'est pas sans une certaine émotion que je vais éteindre cette lumière. Et pour que ça marche, pour qu'on voit la consommation d'électricité descendre à l'EDF, là où se trouve Michel Chevalet, il faut que vous fassiez le même geste que moi sur tous les interrupteurs que vous avez laissés allumer depuis le début de ce journal. Attention, 1, 2, 3.
CO2, mon amour.
Éteignons les lumières, qui ne sont pas indispensables. Qu'est-ce qu'on voit maintenant à l'EDF ?
Roger, je suis comme vous. Vous regardez, c'est très net. L'aiguille a dépassé le zéro, c'est-à-dire l'équilibre production-consommation. Là, nous avons dépassé le 100. Nous sommes à 150 milliers de kilowatts. Eh bien, c'est l'équivalent de la consommation d'une ville comme Nancy ou Nice. Vous voyez que ce n'est pas du tout négligeable.
Denis Chessoux sur France Inter.
Eh bien, nous, on va baisser un petit peu l'abat-jour, on va surtout baisser les lumières. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour, l'émission qui rapproche les hommes, le Père Noël, en nous rapprochant de la nature. Et alors, nous avons à la technique Nicolas Cazot, nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès et Thomas Lehété, et donc c'est Henri-Marc Mutel qui la réalise. Il y aura dans cette émission donc un Père Noël, une secrétaire d'État Brune Poirson en fin d'émission et puis une histoire de l'éclairage urbain et aussi comment se prémunir de ses excès. Mais auparavant, Père Noël, mais ne faites pas ce métier les enfants parce qu'il a quand même beaucoup changé. D'abord, je suis en CDD à durée très, 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 très déterminée. Et puis, ça devient dangereux. Et oui, les chasseurs adoubés par notre président depuis le début de la saison, eh ben, ils ont tiré sur une enfant qui pique-niquait au bord de l'eau, un cycliste, un TGV, une balle a traversé une voiture au-dessus d'un siège bébé. Et moi, je m'attends à ce que ces joyeux défenseurs de la nature me flinguent un renne. Donc, gilet pare-balles rouge fluo obligatoire. Et puis moi, je refuse les cartouchières et les 8000 tonnes de plomb qui polluent la nature par an dans ma hotte. Alors, oui, mais alors, vous circulez où, Père Noël?
Je circule où je peux, hein, sans avoir trop chaud, entre les nuages et les embouteillages de satellites. Je fais ma tournée, vous le voyez là, en t-shirt, vous avez vu, gilet rouge par balle, avec un peu de fourrure en poil de renne, hein, façon de rendre hommage à mes bêtes, hein, quand elles meurent de vieillesse. Parce que moi, je tue pas les animaux, j'en mange pas non plus, ils sont très bien nourris, hein, sans soja OGM, du bon lichen sans pesticides. Bon, parfois je mange un vegan quand même, parce qu'ils sont très sains et sans produits chimiques à l'intérieur. Et puis là, regardez quand même, là, en dessous, sur la Terre, comment ça fume. 2018, année la plus chaude, avant la suivante. Alors je sais quand même, Père Noël, que vous faites attention à l'écologie. Eh ben oui, c'est mon empreinte carbone, si vous voulez, à titre personnel. Elle est très faible, hein. Regardez ce que je livre en 24 heures, avec mes rennes depuis qu'on m'a inventé. Traction animale, c'est un truc absolument imbattable. Et quand ils sont fatigués, ben le moteur solaire prend le relais avec les panneaux installés sur le toit du traîneau. Mais ça, si vous voulez, c'était avant, hein. Ça, c'est une époque où on croyait au Père Noël. Parce qu'aujourd'hui, le relais, il est quand même pris en 5 clics sans conscience. Les plateformes logistiques, les camionnettes, dernier kilomètre. Et là, c'est la fête à Jeff Bezos tous les jours, hein. Regardez ma hotte, je le sais, hein, j'ai autant de cadeaux formidables que de saloperies inutiles. Je sais que je fais tourner la machine qui détruit la planète. Mais je suis quand même pas un livreur comme tout le monde, quoi. Je suis aussi le Père Noël, encore un peu de marchand de rêve. Et ça, voyez-vous, c'est pas encore taxé. Et alors, vous militez quand même, Père Noël? Eh ben oui, à ma façon, dans chaque cadeau, je glisse une pétition. L'affaire du siècle, sauvons les coquelicots. Et allez hop, allez les jeunes et les moins jeunes. Ça viendra davantage du haut, ça viendra pas forcément du haut, je veux dire, ça viendra plutôt de vous. D'ailleurs, je tiens à signaler que Fabrice Nicolino sera dans CO2 Mon Amour le 5 janvier. Et puis aussi, il faut aussi sauver le ciel étoilé. Trop de pollution lumineuse pour mes amis oiseaux migrateurs, les insectes et même les humains. Regardez cette gabegie, on va en parler avec Anne-Marie Ducrot. Puis je vois que vous avez des best-sellers quand même dans la hotte, là. Qu'est-ce que je vois là?
Ah, bah je parle la com et le développement durable couramment, mais je suis encore dans l'ancien monde, ça c'est aux éditions de l'innovation. J'ai aussi les forages pétroliers pour les nuls, au large de la Guyane, aux éditions Total. Comment éclater la Guyane avec une mine d'or, c'est un peu un truc à thème, voyez-vous. J'ai aussi les centres commerciaux sont toujours mes amis, aux éditions Europa City. Et puis bon, bah toujours la complainte de l'ours blanc. Mais si Noël, c'est évidemment la fête des recycleurs de déchets, ça reste quand même la fête des enfants. Il faut garder cette très jolie phrase de Christian Bobin. Je ne laisserai personne éteindre en moi la petite lampe rouge de la confiance. Allez, bon Noël à tous. Alors je vous l'ai dit donc deux sujets. Tenez, nous allons d'abord écouter Brune Poirson, donc qui interviendra dans la deuxième partie de cette émission, secrétaire d'État donc à l'environnement.
Je crois qu'il faut faire attention. Pour le coup, j'ai utilisé un mot peut-être un peu technique, mais attention au biais cognitif. C'est-à-dire que depuis la démission de Nicolas Hulot, on a en quelque sorte décidé que le gouvernement n'était pas écolo. Et donc quoi qu'on fasse, comme par exemple fermer nos centrales à charbon, ça c'est historique aussi. Et nous, nous travaillons, et notamment, c'est vrai qu'un de nos prismes, et principalement il est double, il est un, transformer l'économie, parce que de toute façon on ne fera pas la transition écologique sans transformer en grande profondeur notre économie, et en n'insistant aussi sur la préservation de la nature, la biodiversité, tout simplement. Pourquoi ? Parce que la biodiversité, c'est une infrastructure. Et en plus de ça, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut aimer profondément. C'est la nature, c'est ce qui fait qu'on est homme.
Alors voilà, donc la suite à la fin de l'émission. Et puis donc ce dossier, parce qu'on n'est pas loin de Noël. Donc Lumière sur la ville, j'ai un formidable ouvrage aux éditions Arte Éditions, donc signé Agnès Beauvais-Pavie, une histoire de l'éclairage urbain. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors vous êtes documentariste, vous avez réalisé à la fois donc un film et puis aussi donc cet ouvrage Lumière sur la ville. Qu'est-ce que nous apprend l'éclairage urbain sur notre société ?
L'éclairage urbain, c'est un espèce de témoin de la modernité, et c'est aussi, je dirais, un instrument et un attribut de pouvoir. Donc, si on regardait, par exemple, la planète vue du ciel, on voit très bien que les zones illuminées sont effectivement les zones les plus riches, les plus économiquement développées. Et dans son histoire, quand on regarde l'histoire de l'éclairage urbain, on voit qu'il naît avec le siècle des Lumières, c'est-à-dire vraiment ce que les historiens appellent les temps modernes.
Donc on va décliner, on va dire, toutes ces idées avec vous, Agnès Beauvais-Pavie, puis à vos côtés, Anne-Marie Ducroux. Bonjour Anne-Marie Ducroux.
Bonjour.
Alors vous êtes la présidente de l'Association pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Vous travaillez, vous militez donc depuis très très longtemps sur ce thème. Quels sont les enjeux de cet environnement nocturne ?
Finalement, la lumière, c'est un objet assez étrange qui mérite qu'on y réfléchisse, parce que implicitement, on est toujours convaincu que la lumière est un progrès par nature. Mais en réalité, pour cette modernité dont il vient d'être fait question, on devrait réfléchir au fait que cette lumière ne répond plus peut-être au XXIe siècle, aux enjeux du XXIe siècle. Certes, elle a fait parcourir des progrès dans les siècles antérieurs, mais aujourd'hui on a des enjeux sur le climat, sur l'énergie, sur la biodiversité, sur la santé humaine, sur les budgets publics, et donc il faut avoir une approche beaucoup plus globale de la lumière pour voir quels sont les effets, y compris les effets néfastes, même s'ils ne sont pas tous que néfastes.
Alors vous l'avez compris, donc c'est le thème de notre émission, avec notre secrétaire d'État aussi donc à l'environnement à la fin de cette émission. Voilà, soyez donc les bienvenus, c'est parti en musique avec Thierry Dupin qui nous a choisi. Oh, je vous le dirai après, tiens. Now they're saying, girl is no good. Always end up misunderstood. Girl, it's alright. What you know, what you know, what you know about me. It's no lie. I'm alright for you. They don't know, they don't know, they don't know about me. I won't lie, I would die for you. But she's telling me now, this could be the last time. There's nothing between
that's exclusive. So don't fall in love, fall in love. Straighten it out, don't need no hot comb. Baby, relax, you know they did wrong. Girl, in my mind, the only one is you. I can't lie, I got eyes for you. Ain't no thing that I won't do. Ain't no space, then I make room. From the bar to the bedroom, put it in my next tune. And I never spit a word on your ex, dude. I don't ever wanna be rude, but I'm feeling things coming unglued. Tell me one time what's deep in your mind. We can make it alright. But she's telling me now, this could be the last time. That's exclusive, so don't fall in love, fall in love. Bad boy, you know I don't need you, I'm a bad girl. There's nothing between us, that's exclusive, so don't fall in love, this ain't love.
C'était qui? C'était Beat Assaillante, mais oui, bien sûr, qui interprétait Bad Boy, choisi par Thierry Dupin, notre programmateur, en direct de la playlist de France Inter.
CO2, mon amour.
La cinquième planète était fort curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère.
Denis Chessou.
Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel. Sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère.
Sur France Inter.
Ah bah oui, on a tous été plus ou moins shootés avec cet allumeur de réverbère. Là, c'était la voix de Gérard Philippe. Il y a de très nombreuses versions donc de ce petit prince que vous avez reconnu. Et alors pendant ce temps, ma première invitée Agnès Beauvais-Pavie est en train de regarder les lumières là du studio. Voilà, je vous disais, c'est des LED, c'est pas des LED, c'est pas terrible, c'est pas voilà, ça a l'air d'être vieux. C'est un peu ça le constat que vous faites.
Oui, bah en tout cas.
Tenez, rapprochez-vous quand même.
En tout cas, c'est un vrai design très années 70. Voilà, donc.
On prend plein
et elles sont hein. Et elles sont un peu violentes.
D'accord.
Tout de même.
Formidable. Eh ben écoutez. Au revoir madame. Donc une histoire de l'éclairage urbain aux éditions Arte Éditions, une histoire donc de cet éclairage lumière sur la ville. Alors vous imaginez bien, si souvenez-vous quand vous étiez donc du côté du Moyen-Âge. Alors là, on était plongé dans l'obscurité. Cette lumière, c'était la parole de Dieu avant de devenir après celle du roi. Si vous croisiez François Fillon et vous expliquiez qu'à la moitié du 15e siècle sur Paris, vous n'aviez simplement que trois lanternes. Mais on a besoin de lumière parce qu'on n'est pas exactement nyctalope comme les chats, les uns et les autres. Alors, suif, bougie, chandelle, huile, gaz, électricité. Voilà, s'éclairer pourquoi? Bah, pour dissiper au départ les ténèbres. Et ça, ça date véritablement de tout temps. À quel moment on commence à avoir de la lumière, en fait, dans les villes? On a donc ce Moyen-Âge qui donc est extrêmement long. Est-ce que c'est Louis XIV qui veut chasser un peu le désordre, qui met de l'ordre un peu dans tout ça?
Bah oui, c'est Louis XIV, il inaugure toute une série de grandes réformes de l'État, hein, et puis qui vont installer vraiment les bases de l'État moderne. Et Louis XIV en particulier, bah, il va créer la police, qui est l'ancêtre vraiment de notre police, hein, qui fonctionne avec des services de renseignement, de contrôle, etc. Et aussi, il va créer l'éclairage urbain, c'est-à-dire qu'il va l'imposer. Alors que pendant des siècles, on a essayé de l'imposer aux habitants, mais les moyens, enfin les bougies, ça coûtait tellement cher que tout le monde arrivait à trouver un moyen de passer outre. D'autant qu'on sortait pas tellement. Donc lui impose ça, il impose la taxe des bouts et des chandelles. Et mieux que ça, bah, ce sont les habitants eux-mêmes qui vont allumer ces lanternes royales pendant à peu près un siècle.
C'est-à-dire qu'il y a une obligation de les allumer.
Ah bah, il faut bien que quelqu'un s'en charge.
Bien sûr.
Donc la police faisait fabriquer les chandelles, les distribuait aux les habitants. Puis il y avait une élection du commis allumeur, donc ça se faisait par quartier. Et effectivement, bah, ça posait pas mal de problèmes. Voilà. Donc, et un siècle plus tard, c'est encore la, enfin, ça posait des problèmes tout simplement parce que personne n'avait envie de cette charge.
Oui.
Donc, tout le monde essayait de se défiler.
Et donc, alors, justement, parce qu'il y a aussi cette expression, faire des économies de bout de chandelle, ça vient d'où, ça?
Alors, bah, de tout temps, on a fait des économies de bout de chandelle parce que c'était tellement cher. Alors, justement, certains commis allumeurs se disaient, bon, bah, puisque ça leur tombe dessus, qu'ils avaient trouvé des tas de ruses, par exemple, pour économiser les chandelles. Donc, dont une ruse qui a été, il a fallu 2 ans à la police pour la mettre à jour. Ils perçaient la chandelle avec une aiguille, ils introduisaient de l'eau, et donc, à la moitié de la chandelle s'éteignait. Et eux, ils pouvaient récupérer la chandelle le lendemain pour chez eux.
Malin.
Voilà.
Ah oui, d'accord. Tous les stratagèmes, donc étaient bons pour ces économies de bout de chandelle. Et alors, après, donc, on a cette révolution, donc le siècle des Lumières, bien sûr, au sens philosophique, au sens démocratique, et puis aussi donc tout à fait réel. Donc là, qu'est-ce qui change au siècle des Lumières? Alors,
juste avant la Révolution, bah, c'est la police encore qui fait faire un concours justement pour trouver un autre moyen d'éclairer qui soit plus économique. Donc, il y a un inventeur qui va être désigné comme gagnant, qui a inventé le réverbère qui fonctionne à l'huile et qui, avec cette petite plaque de métal, renvoie les flammes vers le sol. Et surtout, cet inventeur s'associe avec un financier, et ce financier va proposer à la ville de Paris, qui va être la première éclairée, bah, de prendre en charge l'allumage de ces lanternes, de ces réverbères. Donc là, vraiment, le métier d'allumeur de réverbères naît quelque chose comme presque 18 ans avant la Révolution. Et on s'aperçoit que pendant la Révolution, la question, c'est de maintenir les villes éclairées parce que les révolutionnaires aussi, ils ont peur dans la nuit.
Ouais. Et alors, donc après, on a ce 19e siècle avec une révolution majeure qui est donc le gaz. Là, ça arrive au début de ce 19e siècle. Alors, ça vient d'Angleterre, hein, parce qu'au départ, ça servait à illuminer en fait les usines anglaises.
Oui, absolument. Les Anglais avaient beaucoup d'avance sur nous au niveau de l'industrialisation. Et dans les manufactures, on utilisait déjà dans les forges et dans certaines manufactures de la houille qui faisait tourner les machines. Et puis, on s'est aperçu que le gaz de houille, ça produisait de la lumière. Mmh. Et donc, dès 1802, certains industriels se disent, on va récupérer ça. Enfin, surtout, il y a un ingénieur qui s'appelle Murdoch, très connu en Angleterre, qui installe plusieurs manufactures, qui travaille pour James Watt, qui est l'inventeur de la machine à vapeur, et qui va lui-même éclaire sa maison dès 1802 avec du gaz. Et il va installer ses systèmes dans des manufactures où les industriels vont pouvoir faire travailler les gens de jour et aussi de nuit. Donc on voit là l'extension vraiment du temps de travail qui arrive, qui est aussi une nouveauté. C'est-à-dire que avec le gaz, c'est le travail de nuit qui s'installe.
Et puis lorsque l'on voit donc Haussmann, donc qui éventre Paris, dans 1830-1832, vous avez 300 000 travailleurs nocturnes. Donc ils peuvent travailler parce qu'il y a de la lumière.
Ils peuvent travailler parce qu'il y a de la lumière. Alors... ils travaillent parce que effectivement il y a de l'éclairage dans les manufactures. Puis à la fois c'est un peu spécial, c'est-à-dire que à cette époque les manufactures, les lieux où on travaillait étaient dans le centre de Paris, et puis les travailleurs étaient plutôt dans les villes périphériques qui avec Haussmann sont revenus au centre de Paris. Donc ces quartiers, Belleville, Ménilmontant, Vendée, Vaugirard. Et effectivement on s'aperçoit que peut-être que la ville 24-24, c'est peut-être pas la ville qui est devant nous, c'est peut-être pas la ville qui est maintenant, c'est peut-être la ville qui existait dans cette deuxième moitié du 19e siècle. Où d'une part, il y a ceux qui travaillent, puis il y a ceux qui font la fête. Et il y a une vraie culture de la fête, c'est-à-dire que il n'y a pas de télévision, donc on sort le soir, on va dans les cabarets pour chanter avant que la radio arrive et avant que les cabarets, qui étaient des marchands de vin, se transforment en salles de spectacle.
Donc ça veut dire que cet éclairage urbain redessine une nouvelle, on va dire, géographie donc urbaine. Et puis donc après va arriver l'électricité. Alors, même si d'ailleurs pour l'exposition de 1889, la Tour Eiffel est encore éclairée au gaz, mais vous avez le Bon Marché aussi qui arrive juste après, qui a été éclairé. Et vous avez deux imaginaires, vous avez l'électricité et l'automobile, qui sont que se nourrissent l'un l'autre. Et alors là ça change, c'est une explosion totale et Paris commence à devenir une petite ville lumière.
Au 19e, oui, Paris revendique son appellation de ville lumière pour avoir été la première éclairée grâce à Louis XIV, pour avoir aussi propulsé certaines innovations sur la place publique. Les premiers essais d'éclairage électrique ont eu lieu à Paris. Et même si elle est très très en retard sur d'autres capitales, comme New York, au début du XXe siècle, elle est très très fière de ce statut-là. Et effectivement, on voit arriver La même chose au début du 20e siècle, c'est très prégnant dans la littérature, un peu partout. C'est un nouveau siècle, c'est un siècle fantastique, merveilleux. On a l'électricité, l'éclairage, c'est une chose fantastique, et l'automobile. C'est-à-dire qu'un siècle qui s'ouvre avec des promesses, mais de progrès absolument fantastiques.
Donc, lumière égale progrès, on va le voir. Et alors, pendant ce temps-là, aux États-Unis, puisque vous en avez parlé, on est en Californie, qu'est-ce qui se passe du côté de Livermore?
En 1972, nous avons découvert que l'ampoule suspendue au plafond de la caserne des pompiers était unique. Nous ne savions pas qu'elle était si ancienne. Jusqu'au jour où un journaliste, Mike Dunstan, a commencé à enquêter. Il a pu interroger d'anciens pompiers, alors nonagénaires, qui lui ont confirmé que l'ampoule avait brillé sans interruption depuis 1901.
Une webcam diffuse l'image de l'ampoule de Livermore 24 heures sur 24 sur Internet. Pour l'anecdote, elle a déjà survécu à deux webcams.
Pas mal ce petit donc documentaire, et elle continue donc cette fameuse ampoule. Peut-être qu'un jour nous annoncera le décès de cette ampoule. Alors tout ceci évidemment donc nous met en joie parce que lumière et puis. Alors vous êtes pas du tout quelqu'un du tout de sinistre, hein, loin de là, Anne-Marie Ducroux, bien au contraire. Donc je le rappelle, donc présidente pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Quels sont donc maintenant, quand même, revenons un peu aussi sur ces soucis, parce que à force de trop éclairer dans tous les sens. Ça, c'est le principe de l'homme, hein, c'est l'excel, c'est de balancier très très loin. Mais où en est-on aujourd'hui? Parce que lorsque l'on voit, tenez, nos chères boutiques, ça c'est, je devance une question qui peut arriver, nos chères boutiques éclairées entre minuit et 5h ou 6h du matin, c'est complètement dément cette histoire, là.
C'est vrai que ça paraît pas toujours très logique. Par exemple, quand vous avez une boutique de bijoutier qui a enlevé de sa vitrine, parce qu'il craint les vols, les bijoux de la boutique et qui laisse la boutique éclairée, on se demande vraiment quelle est la logique qui prévaut à tout ça. Et c'est pas le seul exemple, il y en a plein d'autres. Donc c'est un sujet qui nous préoccupe effectivement, parce que on réfléchit pas suffisamment aux effets de la lumière. Bien sûr, la lumière nous rend des services et il faut garder ces services. Mmh. C'est très utile pour se déplacer, pour la mobilité, pour la sécurité, etc. Mais on a changé d'échelle et c'est ça la vraie différence. C'est-à-dire qu'on n'en est plus du tout à l'époque après-guerre où on cherchait à électrifier les campagnes. Aujourd'hui, en France, on est à plus 94% de lumière émise en seulement 25 ans. Ce qui veut dire que le nombre de points lumineux de l'éclairage public s'est accru de manière considérable, ainsi que la durée d'éclairement. À ça s'ajoute toutes les sources privées lumineuses, c'est-à-dire les enseignes, les publicités lumineuses, les vitrines dont on parle à l'instant, et toutes sortes de sites privés, les parkings éclairés sur des endroits totalement fermés. Si vous ajoutez tout ça, ça aboutit au fait que nous vivons dans une sorte de crépuscule permanent, puisqu'on voit à l'œil nu des halos lumineux au-dessus de toutes les villes, mais aussi au-dessus des villages de campagne, puisque finalement il y a très peu de zones en France qui sont préservées, et même par extension dans le monde. On sait que 80% de la population mondiale est exposée à la pollution lumineuse aujourd'hui, donc vit dans un environnement pollué par la lumière, et pour ce qui concerne l'Europe et les États-Unis, ça va jusqu'à plus de 90%.
Oui, donc 5 à 10% des étoiles en milieu urbain aujourd'hui sont visibles. Et alors, bon, si on parle des communes, en général, on annonce le chiffre de 40-41% de la consommation électrique des communes qui est liée à l'éclairage électrique. Mais il y a un chiffre peut-être encore plus fort, c'est celui de 2 milliards. En France.
Le coût de l'éclairage en France annuel, 2 milliards d'euros. Donc ça mérite quand même aussi qu'on se pose des questions dans un contexte de fonds publics rares, tant au niveau national qu'au niveau local. Ces 2 milliards se décomposent déjà pour 1 milliard rien que pour la maintenance. Très souvent, on est focalisé sur la question de la consommation d'énergie. En réalité, elle ne représente qu'un quart de cette somme-là. Alors c'est important, il faut la regarder, mais il faut regarder aussi tout le reste. Et c'est un peu l'approche que nous proposons. C'est d'avoir une approche beaucoup plus globale des effets et beaucoup plus globale des coûts, pour regarder, quand on choisit notamment un usage ou une technologie, s'il va avoir des coûts de maintenance, par exemple, plus élevés. Et c'est souvent le cas. C'est un point qu'on ne regarde pas avec la même attention que la consommation au kilowattheure.
Et donc, vous vous rappelez aussi que l'on confond assez souvent lumière et énergie, hein, c'est ce que vous nous dites.
Oui, alors ça c'est un de nos très gros problèmes pédagogiques, c'est que beaucoup des autorités publiques et même des citoyens confondent la question de l'énergie et de la lumière. On peut comprendre cet exemple à l'inverse, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que quand on augmente la quantité de LED, on nous promet que cette technologie est la meilleure, la plus écologique, et je mets des guillemets à ce mot, en réalité la promesse repose sur l'économie d'énergie. Et par voie de conséquence, ce qu'on observe, c'est que comme les élus ou toutes sortes d'acteurs qui recours au LED pensent faire des économies d'énergie, ils ajoutent des points lumineux ou alors ils ne diminuent pas suffisamment la puissance installée puisque cette technologie lumineuse a un rendement supérieur, ce qui fait qu'au final, nous émettons plus de lumière. Et c'est là qu'on se trompe entre énergie et lumière.
C'est ce qu'on appelle les effets rebonds, l'on trouve aussi dans les voitures qui ont beaucoup diminué leur consommation depuis 20 ans, ça c'est incontestable, mais comme elles se sont alourdies aussi, on a plus de consommation et on l'utilise peut-être aussi davantage. Ce que vous constatez aussi, c'est qu'il y a quand même des mesures qui sont immédiatement chiffrables lorsque l'on éteint quand même une partie de son éclairage la nuit. Vous avez 12 000 communes aujourd'hui en France quand même qui sont dans cette opération.
Pendant très longtemps, cette question de l'extinction ou de la réduction de la durée d'éclairement la nuit était un peu tabou, voire combattue par beaucoup d'acteurs. En réalité, nous, ce qu'on observe sur le terrain, puisque nous sommes quand même depuis 20 ans sur le terrain, c'est que de plus en plus de communes y recourent et l'utilisent avec des vrais résultats. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles adaptent leur durée d'éclairement à la réalité des besoins locaux et de la démographie. Quand il n'y a aucun flux démographique, on connaît tout ça, on a tous vu ça dans les rues françaises, de petits villages ou de communes moyennes, etc., où il n'y a pas un chat dans la rue et on a des lampadaires tous les 10 mètres qui sont éclairés toute la nuit pour personne. On connaît tout ça. Donc on voit qu'on peut, en connaissant bien sa commune, et c'est vraiment le rôle d'un élu avec les citoyens, on peut adapter à la réalité des besoins. Et à partir de là, oui, c'est la première mesure par laquelle on fait à la fois des économies en euros, des économies en kilowattheure et une réduction de la pollution lumineuse immédiate.
Et vous n'allez pas vous faire forcément trucider parce que la plupart des cambriolages, c'est le jour, voilà. Pour les entrepôts, c'est la nuit. Mais en général, c'est plutôt le jour. On poursuit ce voyage au pays de la lumière.
Dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Non, ne dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Quand tous les mots de la terre ne valent pas un soupir, c'est qu'il vaut mieux se taire et dire. À croire que ta mère t'a rien appris. Y a-t-il des filles que ça touche, ces mots qui sortent de ta bouche comme des perles? Moi je m'en fais des colliers que je jette à la mer et dis. Non, ne dis rien et dis rien de plus. Amours sont muets, tu aurais dû t'en douter, tu aurais dû la boucler et dire. Sûr que j'en serais pas là à t'étouffer dans les draps. Mais c'est pas l'heure de regretter ce qui est fait, fait, je ne te l'apprends pas. Laisse ta tête d'enfant rouler sur le matelas et dis. Non, ne dis rien. Et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Non, ne dis rien. Et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus.
Clara Luciani sur France Inter dans Ceux de mon amour qui interprétait qui ? Eddie.
Là où CO2 mon amour passe, la pollution trépasse. Et allez ! Eh ben quoi, on peut rêver un peu, non ?
CO2 mon amour. Denis Chessou.
Ben oui, c'est autorisé, lumière sur la ville, une histoire de l'éclairage urbain avec vous Agnès Beauvais-Pavie, avec vous aussi donc Anne-Marie Ducroux, on est en train de voir, en voir un petit peu les méfaits parce que si je suis comme 30% des vertébrés dont Fabrice Becbédé et 65% des invertébrés, ben je vis la nuit et là ça me pose des problèmes. Je suis un oiseau migrateur, ben ça va pas très très fort parce que je confonds un peu mon GPS est un petit peu déréglé, je suis une luciole ou un ver luisant. Qu'est-ce que je fais comme boulot? Ben moi je communique en voyant de la lumière, bah oui. Et puis ça marche pas donc à tous les coups. Donc il y a des conséquences sur les arbres en ville qui perdent leur feuillage plus tard, des conséquences. Alors aussi sur notre santé quand même, Anne-Marie Ducroux, on peut pas l'oublier ça. Hein.
Donc, oui, c'est un sujet qui est moins connu, hélas, parce que les lumières... Alors d'abord, la quantité de lumière a un effet sur le rythme biologique des humains, mais du vivant au sens large. Et puis aussi, certaines lumières ont des effets sur la vision et sur le sommeil particulièrement, parce qu'elles émettent un fort pic d'émission dans la partie bleue du spectre. Et donc ça a des conséquences sur la vision qui peuvent être assez dommageables, hein, puisque ça peut avoir des effets toxiques sur le cristallin et la rétine, et on soupçonne un certain nombre de conséquences à moyen et long terme pour chacun des individus qui est multi-exposé à cette lumière à tous les âges de sa vie.
Super. Bon, les astronomes aussi, les naturalistes, les astronomes nous suivent parce qu'ils vont dire, attendez, nous aussi évidemment on voit de la pollution, ça va pas le faire. Agnès Beauvais-Pavie, dans cet ouvrage Lumière sur la ville, vous êtes quand même beaucoup partie sur la notion justement de sécurité.
Ben parce que la lumière est née effectivement avec la police, et puis au 19e siècle on instrumentalise pas mal les choses au moment où on essaie de pousser le gaz, et au 20e siècle on est absolument persuadé que un lampadaire, hein, un réverbère vaut un policier, et c'est quand même quelque chose qui est très diffusé dans la société, je dirais, française. Les gens pensent que la lumière, ça assure la sécurité. Alors, par exemple, je vais me fier sur un sondage qui a été réalisé par le syndicat de l'éclairage en 2016. Alors, on ne sait pas comment les questions ont été posées, mais en tout cas, au niveau des réponses, telles qu'elles ont été transmises, hein, par voie de presse, c'est un sondage qui avait été effectué par la Sofres, 92% des Français pensent que la lumière est importante pour la sécurité. Alors attendez, je crois, est un enjeu central de sécurité, exactement. Donc, dès qu'on parle de lumière ou d'extinction de lumière, tout de suite, il y a une réaction qui est de dans l'ombre, ouais. Qu'est-ce qui va se passer ? Je ne serai plus en sécurité.
Et heureusement d'ailleurs qu'on avait éteint les lumières pendant les bombardements, hein, parce que ça a quand même aussi été de là.
Donc, l'objet effectivement facile, du film que j'ai fait, comme l'objet du livre, était vraiment de commencer par déconstruire ce mythe. Comme quoi, la lumière assure la sécurité.
Alors, vous nous rappeliez aussi, c'est très intéressant, c'est que sur l'autoroute A15 en 2007, il y avait eu un vol de cuivre, comme c'est assez fréquent malheureusement, et en fait, on n'avait pas rétabli cette lumière, et on s'est rendu compte que 30% des accidents mortels, on avait 30% en moins d'accidents mortels, et 60% en moins, donc... c'est ça. Parce que les gens faisaient davantage attention. Quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'on n'a jamais remis en cause quelque chose qui était peut-être juste dans les années 30, ou sur la route, on avait des voitures, des chevaux, des vélos, et que c'était plus simple d'avoir un éclairage au-dessus plutôt que des éclairages qui pouvaient éblouir les chevaux.
Anne-Marie Ducroux, donc sondage aussi.
C'est un sujet
aussi,
qu'on connaît très très bien et sur lequel on répond en permanence à tout élu et tout citoyen. C'est tout à fait normal qu'il y ait des questions de ce type. Néanmoins, nous, on a un sondage OpinionWay que nous faisons régulièrement sur ce que pensent les Français de la pollution lumineuse. Et dans le dernier qui vient de sortir en septembre, les Français nous répondent qu'ils sont à 82% favorables à l'extinction de l'éclairage privé et à 79% favorables à l'extinction de l'éclairage public, alors qu'il y a 5 ans, il n'était que 42%. Donc on a d'abord une énorme progression sur ce sujet. Et nous, on a une recommandation simple. Parce qu'on sait que cette question est importante, elle est légitime d'ailleurs, il faut y répondre. On propose aux élus, premièrement, de faire la pédagogie des enjeux, et ça, les citoyens comprennent dès lors qu'on commence à leur expliquer la globalité des enjeux. Deuxièmement, nous proposons de faire une expérimentation sur 3 mois, 6 mois, etc., avec les services de police et de gendarmerie. Et dans toutes les communes où nous avons suivi les expérimentations de police et de gendarmerie, ce sont ces services qui montre, chiffre à l'appui, avec la plus grande neutralité et donc objectivité, qu'il n'y a pas d'augmentation des délits la nuit.
Anne Valax, vous êtes avec nous, vous êtes la directrice générale du syndicat des entreprises de génie électrique et climatique, donc là aussi avec les fabricants de luminaires. Alors on se doute bien qu'avec les nouveaux systèmes que vous avez, on pourrait laisser une lumière aller à hauteur de 10%, mais j'aimerais bien que vous ayez, vous disiez quelques mots du parc naturel régional de Scarpesco, parce que là on a 55 communes, on est au nord de Valenciennes, on est dans les Hauts-de-France, vous avez Saint-Amand-les-Eaux. Qu'est-ce qui s'est passé, Anne Valax, s'il vous plaît?
Bonjour, bah écoutez, les entreprises que je représente apportent des solutions dans le cadre de la transition énergétique et numérique aux collectivités locales. Hein. On ne fabrique pas de matériel, mais c'est vrai qu'elles sont, elles, préoccupées par les impacts sur le climat, parce que c'est vraiment de ça dont on parle aujourd'hui, hein. C'est la réduction des nuisances lumineuses.
C'est ça.
Et c'est vrai que l'extinction, parfois pour les communes, c'est une situation un peu binaire, c'est-à-dire qu'ok, on éteint, on a bonne conscience, mais finalement on n'a rien changé par rapport à l'état de son parc, qui quand on le rallume, est toujours obsolète, éclaire toujours le ciel et éclaire absolument n'importe quoi. Alors c'est vrai que Condé-sur-l'Escaut, c'est une petite ville qui a 9600 habitants, qui est située au sein d'un parc naturel dans les Hauts-de-France et qui est lui-même justement une convention territoire et énergie positive avec le ministère de l'écologie. Et qui s'est posé la question de bien restituer au sein de ce parc une trame noire et donc à travailler avec les communes pour adapter l'éclairage public dans ce cadre.
Alors qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Qu'est-ce qu'ils ont gagné là en fait maintenant ?
Donc cette commune, elle a travaillé donc avec une de nos entreprises, oui, sur trois axes. L'utilisation des LED, parce que quoi qu'on en dise, l'utilisation des LED, ça permet d'avoir une couleur de lumière qui permet de réduire justement la lumière bleue et qui est plus favorable à la biodiversité. Deuxième axe, l'utilisation de luminaires plus performants, notamment sur l'orientation. Ils ont regardé les voies de circulation, les zones d'activité et où est-ce qu'on doit éclairer, oui, comment on doit éclairer et jusqu'où on doit éclairer. Et puis troisième axe, eh bien là je rejoins Madame Dupros, c'est éclairer quand c'est nécessaire. Et la ville de Condé-sur-l'Escaut a mis en place des détecteurs de présence dans certains endroits pour justement, quand il n'y a pas beaucoup d'activité, eh bien la lumière s'éteint, voire réduit à juste un tout petit flux, histoire de ne pas se casser la figure par terre. Et quand quelqu'un passe, eh bien la lumière se rallume, on attend qu'on passe et ça se rééteint.
Eh bien c'est bien noté. Donc, merci à vous Anne Valax, pardonnez-moi parce que là on est un peu pressé malgré tout, même si on a l'impression d'avoir l'éternité. Anne-Marie, du coup, peut-être réaction quand même sur les LED parce que
oui,
on va pas être forcément d'accord.
Bon, je partage un certain nombre de ces propos, mais disons que la recommandation des LED pour ce qui est de la biodiversité, non quand même, faut pas pousser trop loin l'argumentation parce que justement les LED ont des caractéristiques spécifiques, notamment avec leur pic d'émission dans le bleu qui a un effet supérieur sur le vivant. Donc on peut pas, dans une trame nocturne, et je rappelle que c'est une recommandation historique de la NPSON de créer des continuités écologiques dans lesquelles on se préoccupe de la gestion de l'éclairage la nuit, ce qui n'était pas le cas à l'origine de la conception de ces corridors écologiques. Non, il faut vraiment avoir des lumières qui soient... D'abord, le moins de lumière possible, c'est la meilleure solution pour la continuité écologique. Et ensuite, il faut vraiment des éclairages dans certaines parties du spectre. Si vraiment on doit maintenir des LED, il faut au minimum qu'elles soient ambrées. Mais ce n'est pas le matériel qui va trouver la solution. C'est la manière dont on conçoit les choses et dont on les utilise qui sera la première modification et même, je dirais, modernité de l'éclairage.
Et on va avoir donc une étude de l'ANSES en 2019 qui va sortir sur les effets des LED sur la santé. Je voudrais saluer le syndicat départemental d'énergie des Hauts-de-Pyrénées parce qu'ils ont investi 7 millions en conversion d'éclairage. Ils ont eu la première réserve de ciel étoilé au pic du Midi de Bigorre et donc ils ont fait un boulot fabuleux. Je vous renvoie donc à cet ouvrage Lumière sur la ville, une histoire de l'éclairage urbain. Merci à toutes les deux, mais restez avec nous. Par contre, dans quelques instants, on va écouter Brune Poirson, notre secrétaire d'État.
Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins. Dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel, il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari. Toute la nuit danser le calypso en signe avec vue sur l'Arnon. Au milieu de la nuit, un catimini, et va la navette, va la douce vie. On s'en ira toute la vie danser le calypso. S'en aller au matin, boire un dernier martini, et aller prendre un bain sur une plage à Capri. Voir sur ta peau le soleil se lever, à la Madone envoyer des baisers. Au milieu de la nuit,
justement parce que c'est une chanson d'été, Lily Cub, Voyage en Italie, qu'on la présente comme ça en hiver et ça nous fait le plus grand bien. Deuxième partie donc de cette émission, Brune Poirson qui est notre secrétaire d'État donc auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Alors, c'est une femme qui s'est beaucoup investie quand même sur la COP 24 et en arrivant donc vendredi, donc j'ai enregistré ça hier au ministère, je me suis dit que bon avec tout ce que l'on a vécu qui n'est pas forcément terminé. Comment se faisait-il, c'était la première question pour avoir dit bonjour quand même, hein, comment se faisait-il que le gouvernement, les élus, les technos aient peut-être oublié le troisième mot de l'intitulé du ministère, de la transition écologique et solidaire?
Bonjour à vous. Non. Moi j'étais en 2017 aux côtés de Nicolas Hulot quand nous avons lancé le plan climat. Il y avait deux choses centrales. Premièrement, l'ambition, et donc une taxe carbone qui est... un vrai impact dans la vie des gens, impact au sens positif du terme, c'est-à-dire qui les encourage à changer de comportement. Et puis la deuxième branche, le deuxième pied, la deuxième jambe, c'était, et c'est, la solidarité, avec un paquet de mesures sociales et solidaires, comme par exemple le chèque énergie ou encore la prime à la conversion, pour aider les Français à changer de comportement et accompagner les plus modestes d'entre eux, de façon à ce que eux aussi aient le droit de rentrer de plein pied dans la transition écologique et solidaire.
Mais aujourd'hui, alors comment peut-on faire? Si on parle justement de financement de cette transition, comment faire?
En France, on sait que la transition écologique nécessite environ entre 50 et 70 milliards d'euros par an.
C'est ça.
Aujourd'hui, on investit en gros 40 milliards. C'est-à-dire que le déficit d'investissement dans la transition écologique, il s'élève à entre 10 et 30 milliards d'euros. C'est pas les contribuables français qui vont payer. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a trois bonnes nouvelles. La première, c'est que l'argent existe. Ces milliards-là, ils existent. La deuxième nouvelle, c'est qu'on sait comment les diriger vers le bon endroit. La troisième bonne nouvelle, c'est que c'est un puits de croissance, un puits d'emploi non délocalisable sur les territoires. Et donc ce qu'il faut faire, c'est parler le langage des institutions financières, des banques, des investisseurs privés. Et leur langage, c'est le risque. Eux, ils décident d'investir dans un projet ou pas, en fonction de la rentabilité, en fonction du risque financier. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est faire ce qu'on appelle la transparence sur les risques climatiques. C'est-à-dire qu'il faut que le risque qui est compris dans un investissement dans ce qui est mauvais pour la planète, eh bien, soit mis au grand jour. Et donc, typiquement, il faut que ça soit visible pour les investisseurs privés. Si investir dans un projet qui est mauvais pour la planète, typiquement des centrales à charbon, il faut que ce risque-là apparaisse plus facilement au grand jour plutôt que s'ils investissent dans des centrales solaires.
Et est-ce qu'il peut y avoir des sanctions, des obligations? Je sais qu'on n'aime pas du tout ces mots-là, mais quand même, quoi.
Je pense qu'il faut le dénoncer. C'est tout simplement, je trouve, et je ne pèse pas mes mots, scandaleux. Moi, je crois qu'il y a un moment où il faut aussi remettre des valeurs morales dans le business. C'est compliqué. Je ne dis pas que ceux qui dirigent, par exemple, ces grandes institutions financières, pour eux, c'est compliqué. Ils sont face à des marchés qui fonctionnent à très très court terme, ils ont des actionnaires, des employés à payer, etc.
Et qui demandent entre 12 et 15 %.
Et qui demandent des... Donc, il faut que ça devienne de plus en plus acceptable de potentiellement juste avoir un retour sur investissement qui est un peu plus faible. On ne parle pas de le diviser par 3 ou par 4, mais juste peut-être un peu plus faible. Mais pour ça, je crois qu'il faut insister sur des arguments tout simplement moraux. Je pense que aujourd'hui, une banque qui fait le choix d'investir dans des centrales à charbon, eh bien c'est un choix qui est à terme, je pense,
qui est criminel,
honteux, que quand au 19e siècle, les banques investissaient dans l'esclavage. Ça nous choque alors qu'à l'époque ça nous semblait normal. Aujourd'hui, moi j'espère que c'est en train de devenir de plus en plus choquant. Et ce que j'espère, c'est que ma fille, quand elle aura 3 ans, elle ne pourra pas croire que quand à mon âge, eh bien, il y avait des banques qui investissaient dans des centrales à charbon, par exemple. Et donc, ça, c'est un argument moral et je pense qu'il faut le marteler. Et puis ensuite, il y a toute une série d'outils financiers, de mécaniques institutionnelles et financières à changer, à transformer. Donc, on peut le regretter, mais parfois, il faut utiliser le langage de ceux qu'on essaye de convaincre.
Mais comment fait-on ? Sinon, c'est dans un monde complètement néolibéral qui fait à peu près ce qu'il veut. Comment on fait là-dessus ?
Déjà, moi, je pars du principe qu'il faut donner le bénéfice du doute, par exemple, aux industriels. Donc, il faut leur dire, voilà là où on veut aller, voilà le cadre. Vous avez vu, c'est très ambitieux, mais c'est notre objectif. Exemple, la lutte contre, pour prendre un exemple trivial, la lutte, et concret, la lutte contre la pollution par les mégots de cigarettes. C'est qu'un mégot de cigarette, on n'en entend pas beaucoup parler, mais un mégot de cigarette,
400 litres d'eau, etc.
C'est 500 litres d'eau que ça pollue un seul et 4000 substances toxiques. Dans la nature, hein. Et c'est le premier déchet qu'on retrouve partout, au fond des mers, en haut des montagnes, dans nos villes. Et donc, j'ai demandé aux industriels du tabac de présenter des mesures dynamiques, volontaires, pour mettre fin à ce fléau que représente la pollution de leurs mégots.
Alors concrètement, parce que dynamique,
concrètement,
volontaire, oui.
Ils ont présenté des choses, j'ai analysé ça avec mes services techniques, c'était pas suffisant, nous allons passer à la contrainte. Et donc, je suis en train de travailler à l'élaboration d'un projet de loi qui va les obliger et les contraindre à lutter concrètement contre la pollution des mégots de leurs cigarettes, avec par exemple toute une série de mesures sur à la fois la prévention, mais aussi la collecte de ces mégots, le retraitement dans des filières spéciales, parce que ce sont des déchets toxiques.
Oh, une serpillière, c'est formidable Thérèse, je suis ravi, écoutez.
Non Pierre, c'est un gilet. Puis, c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde, hein.
Ah, mais j'espère bien, Thérèse, j'espère bien. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles.
Brune Poisson, parlons aussi donc d'économie circulaire.
Oui.
Parce que là, jusqu'à présent, on va dire que c'était j'engouffre un maximum de matières premières dans le circuit et puis je recycle à la sortie. Alors, le nœud, c'est l'économie de ressources quand même.
Oui.
Ça, on n'y est pas.
On n'y est pas, il reste beaucoup de travail à faire, mais c'est vraiment une des priorités du gouvernement. La France s'est beaucoup battue au niveau européen. On doit transformer le système capitaliste, faire en sorte que le système économique fonctionne en non seulement économisant des ressources, mais aussi potentiellement en produisant des produits qui sont bons pour la planète à terme. Mais au-delà de ça, je crois aussi, dans cette économie-là circulaire qu'on essaye activement de développer, d'encourager, eh bien, c'est une source d'emplois qui ont du sens. Ça fait quand même beaucoup plus sens et on a envie de se lever le matin si on travaille sur un avion qui, au lieu de fonctionner au kérosène, fonctionne à l'énergie solaire. Et donc, ce sont ces nouvelles frontières technologique, morale aussi, qu'il faut qu'on arrive à explorer. Et c'est ça qu'on essaye de pousser et que j'essaye de faire de toute mon énergie. Pendant 30-40 ans, les hommes politiques, ils avaient envie d'être vus en train de couper des rubans sur des grandes lignes de TGV ou des grandes autoroutes avec des grands ponts qui avaient détruit beaucoup de biodiversité. Eh bien, aujourd'hui, nous, on change la logique et on dit, on veut rien faire qui se voit nécessairement, mais on veut faire plein de petits projets sur tous les territoires qui permettent aux gens de prendre un coup de faire du covoiturage, un coup d'avoir un bus qui va aller les chercher devant chez eux pour les emmener au supermarché. Une fois qu'ils seront au supermarché, ils iront en covoiturage chercher un colis ou se rendre au tribunal qui est à 30 km de chez eux. Bref, mailler le territoire de solutions qui sont bonnes pour la planète.
Notre maison...
Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leur coût pour le climat.
Le réchauffement annonce des conflits.
Make our planet great again.
Brune Poirson, tout à fait récemment, plus d'un million de personnes, 1 300 000 aujourd'hui, soutiennent le recours contre l'État sur le climat. Donc là, 4 ONG que l'on connaît, Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace, Notre Affaire et Oxfam France, donc qui accusent l'État de carences fautives et se félicitent donc de cet électrochoc. Ça a énormément, effectivement, fonctionné. Ce qu'ils appellent donc l'affaire du siècle.
Ça, ce genre d'initiative participe de la prise de responsabilité. On a besoin, bien sûr, nous, décideurs politiques, d'être poussés sur nos retranchements, étant donné l'urgence climatique qu'il y a. La grande difficulté, et ça fait partie du rôle de l'État, c'est d'être les intermédiaires entre ceux qui ne veulent pas plus de transition écologique. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, par exemple, à Gardanne, il y a un vrai mouvement social contre la fermeture de la centrale à charbon. Et en parallèle, vous avez des citoyens qui disent, qui attaquent l'État parce qu'il va pas assez vite. Eh bien, le rôle de l'État, finalement, et je crois que le vrai, quelque part, même si j'aime pas ce mot, c'est un anglicisme, mais le vrai leadership, c'est d'arriver à avoir cette capacité à être finalement entre le marteau et l'enclume, et à se faire détester de tout le monde. Mais c'est pas grave, à continuer à tracer sa route. Parce que c'est notre responsabilité d'homme politique.
Ceux qui sont quand même à contaminer, qui sont vraiment pas du tout dans une sensibilité écologique, a priori, c'est quand même Bercy. Il y a toujours un verrou, là.
L'administration, c'est vrai, est aussi héritière d'un système qui a fonctionné parfaitement bien au XXe siècle. Et elle doit aussi se réformer et se transformer en profondeur, et comprendre qu'il y a des grands équilibres qui doivent changer. Mais là, je vais vraiment aller très loin et dire, je pense que collectivement, une des questions sur lesquelles on doit travailler, c'est qu'est-ce qui vient après le capitalisme ?
Alors là, voilà, c'est dans notre grande série « Changeons le système, mais ne changeons pas forcément le climat », on voit bien qu'on est au bout d'un truc, là. On est sur une fin de civilisation, quand même.
Absolument. Et c'est tout le défi auquel on est confronté. C'est que nous vivons, et notre organisation politique est héritée du 19e siècle, fondamentalement, avec une organisation industrielle en silo, qui n'est absolument pas adaptée pour traiter des problèmes aussi complexes que, par exemple, la lutte contre le changement climatique, qui demande des approches transversales et complexes. Et puis, au-delà de ça aussi, notre pensée politique, elle est aussi, c'est encore celle du 20e siècle. Et c'est pour ça que moi, je dis, et je pense, je suis convaincue que l'accord de Paris, ce n'est pas qu'un traité international, c'est le point de départ de la pensée politique du 21e siècle.
Brune Poirson, quelles sont à la fois vos frustrations et puis vos joies d'être là, quoi, au milieu de cette machine quand même assez immense qu'est l'État ?
Ma joie d'être là, elle est que j'ai la certitude que je ne suis pas dans la facilité. C'est-à-dire que moi aussi, j'aimerais bien là signer la pétition, prendre la tête d'une organisation.
Éloge la complexité, cher Edgar Morin.
Oui, c'est ça. Et après, mes frustrations, c'est que je me pose des milliards de questions. Bien sûr, au jour le jour, comme par exemple, qu'est-ce qui vient après le capitalisme ou comment on le transforme ? Et j'ai pas les réponses. Je vous cache pas que j'aimerais bien les trouver vite.
Ouais, ça va pas forcément simple, hein, la rapidité dans ce domaine. En tout cas, bon, quelques questions qui ont été posées. 01 56 40 40 35, c'est le numéro du répondeur.
Salut Denis, c'est Jean-Marie. Le 14 décembre dernier, j'étais à l'opération nettoyage de la Société Générale à Paris. Une opération qui était organisée par les Amis de la Terre et ANV COP21. L'objectif, c'était de faire reculer la Société Générale sur ses projets d'investissement dans les énergies sales. Il faut savoir que la Société Générale, c'est la championne dans les investissements dans le charbon, le pétrole et les gaz de schiste. On a été non-violents, on s'est assis les mains en l'air en signe de protestation. Pourtant, on a quand même eu droit au CRS et au gaz lacrymo. Ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est l'absence de relais dans les médias. Il n'y a eu aucun article, aucun titre dans la presse, ni même une chronique à la radio. Ce qu'on a besoin pour faire pression sur ces gros pollueurs que sont les banques et les multinationales, on a besoin des médias. Alors aidez-nous, s'il vous plaît, faites passer un peu les infos. Comme on dit chez ANV COP21, eh ben, on reste debout et déterminé pour le climat et on lâche rien. Merci Denis pour tes émissions et tes humeurs qui nous font du bien et à bientôt.
Merci Nicolas Cazot, merci à Camille Blanès, à Thomas Loété et à Henri-Marc Mutel qui réalisait l'émission, Anne Gouzon donc qui nourrit les sites. Merci à Brune Poirson, à Anne-Marie Ducroux et à Agnès Beauvais-Pavy, une histoire de l'éclairage urbain en coédition donc Arte et aussi François Bourin. On se retrouvera donc nous la semaine prochaine avec une très jolie fable. Ce sera l'aigle et le loup. On partira donc en montagne à la découverte de ces deux animaux et puis un homme que vous connaissez. C'est la fin de l'année, j'avais envie de le retrouver aussi, mais le retrouver avec vous. Il s'agit de Jean-Marie Pelt, on le retrouvera donc dans son jardin. Rediffusion donc entre 5h et 6h du matin. Le Twitter si vous le souhaitez, chez Sou, tout simplement chez Sou. La Tulu mon petit loup, ce sera à 19h54, demain après les petits bateaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end.